Nous voici donc arrivés à la Semaine Sainte. On a lu tous ces récits, quel que soit l'évangéliste qui relate la passion du Seigneur, tous ces récits sont vraiment poignants. Parce que Matthieu est très concret, il détaille beaucoup de choses, en particulier autour de Judas. On apprend par lui, grâce à lui, beaucoup de détails sur cette figure quand même qui est incroyable parmi les 12. C'est la célébration de la royauté du Christ qui nous rassemble aujourd'hui. C'était le texte évidemment du début de la célébration, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais qui n'inaugurait pas un couronnement selon les règles du succès humain. C'est un couronnement d'un autre ordre que le Seigneur a reçu. C'est un couronnement d'en haut. Jésus a tellement dit: vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. La royauté du Christ tourne, comment dire, l'acclamation de Jésus roi tourne en un cri de haine que personne n'aurait pu imaginer parmi les disciples d'une part, mais même nous. Comment imaginer qu'un tel revirement, si d'emblée il y avait eu une résistance parmi tout le peuple, et si Jésus n'avait pas eu de défenseur, pas de disciples, rien du tout, on aurait pu penser que tout le monde partageait, était en communion avec les grands prêtres, et les pharisiens et les scribes. Mais là, il y a quand même un revirement spectaculaire. Cet étonnement qui naît en nos consciences, c'est un étonnement qui se renouvelle souvent en réalité dans l'existence, dans notre vie. Nous sommes toujours étonnés du mal dont le monde est capable, voire même le mal dont nous sommes capables. Parce que nous avons une idée qui n'est pas réaliste mais utopique de l'homme. Nous pensons, comme le monde, que l'homme est bon. Il suffit d'un rien pour le pousser à faire des œuvres merveilleuses, à reconnaître l'amour et la vérité. Si Jésus est mort sur une croix, donc une mort si rude, et avec toutes ces suspens, ces retournements-là, comme celui de sa proclamation comme roi, c'est pour nous montrer justement tout le contraire de ce que notre conscience nous fait croire naïvement sur la nature humaine, sur sa bonté. Certes, nous avons été créés dans la bonté, mais il y a eu ce péché originel. Et avec le péché originel, Adam et Ève ont communié exactement comme Judas. Ils ont communié à Satan. Parce qu'on ne peut pas, comment dire, s'éloigner de Dieu, refuser Dieu, sa volonté, ses commandements, et puis sans tomber dans la communion avec les anges révoltés. C'est pas possible, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'autre endroit. Ou Dieu, ou diable, et il n'y a rien d'autre. On s'obstine sans cesse à vouloir aménager un espace vital entre ces deux forces, entre ces deux pôles. Et c'est une illusion totale. Vraiment, la passion du Christ devrait ouvrir nos yeux sur ce dualisme fondamental qui qualifie le combat spirituel. La passion nous montre le refus du Christ, mais à travers lui, c'est le refus du Père. Et à travers le refus du Père et du Fils, et de l'Esprit bien sûr, c'est le refus de la vérité. La passion nous montre d'abord cela, avant même de nous montrer le refus de l'amour, le refus de la justice. C'est d'abord et avant tout le refus de la vérité. Refuser de rechercher la vérité. Voyez Pilate qui est présenté de façon sympathique par Matthieu. C'est quelqu'un qui se rend compte de la vérité. Un homme innocent, jalousé mortellement, c'est le moins qu'on puisse dire, par ses calomniateurs. Mais pourtant, la loi du monde, l'injustice l'emporte facilement à ses yeux et il leur livre. Il propose un jeu, c'est le jeu qu'organisaient les Romains, là, choisir un condamné qu'on libère. Et ils choisissent Barabbas, qui est la caricature du Christ. Barabbas, c'est le fils du Père, littéralement, c'est ce que son nom signifie. Mais ce n'est pas le même Père, bien évidemment. C'est le Père d'en bas, c'est le prince de ce monde. Et c'est... les gens entrent dans le jeu, parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. S'il y a tellement de gens qui écoutent les médias, qui sont sous influence médiatique, c'est parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Et, ils aiment bien répéter, comme les perroquets, ils aiment ça. Mais la vérité coûte cher, la vérité coûte des efforts, et surtout, elle exige qu'on entre dans la perspective de l'amour. Parce que la vérité nue est insoutenable pour l'homme. C'était la loi de l'Ancienne Alliance qui condamnait, qui montrait le péché, mais qui ne le pardonnait pas. Le mystère de Judas, maintenant, que Matthieu met, c'est l'évangéliste qui nous le met vraiment sous les yeux, ce personnage si mystérieux parmi les douze. Lui qui n'est jamais rentré dans les perspectives du Christ, mais qui a voulu rester parmi les douze. Lui dont on disait qu'il était menteur et voleur. Lui voulait utiliser Jésus pour une révolution terrestre, pour chasser les Romains, pour ses projets personnels, sur ce qu'il imaginait être, comment dire, le déploiement de la puissance divine, comment elle pourrait être devenue utile. Hein, par exemple, on pourrait convertir l'énergie spirituelle en énergie électrique, ce serait utile. Ça, c'est une pensée de Judas, vous voyez. Une sorte de centrale nucléaire avec Jésus au milieu, et puis on n'aurait plus besoin de courir après l'énergie parce qu'il en donnerait à tout le monde perpétuellement. Je ne sais pas comment il imaginait exactement son messianisme terrestre, mais il va jusqu'à provoquer les événements en livrant Jésus. Et en livrant Jésus, qu'il admire mais qu'il n'aime pas, c'est ça qu'on a du mal à saisir chez lui. Il y a de l'admiration, mais tout homme admire Dieu, parce que tout homme voudrait devenir Dieu. Mais l'admiration n'implique pas l'amour, loin s'en faut. Et combien de fois on détruit les personnes qu'on estime parce que c'est pas de l'amour, c'est au contraire, c'est son contraire, c'est la haine. Judas, c'est le mystère de la perdition. Le mystère de celui dont il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né, dit Jésus. Vous rendez-vous compte? Et Jésus accepte la passion, sa passion, avec cette perspective-là. La perspective de la perdition même de ceux qu'il a appelés à collaborer à l'annonce de la vérité. Jésus, c'est le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est le doux, en même temps c'est le fort, mais qui n'oblige pas les hommes à le suivre. C'est pourquoi il est mort sur une croix. Il a obligé personne à le suivre, alors tout le monde s'est tourné contre lui. Nous aimons les tyrans, ceux qui nous forcent. Les hommes aiment ça, c'est comme ça, c'est une loi immémoriale. Jésus, c'est tout le contraire. C'est un maître si doux, mais en même temps tellement exigeant, parce qu'il oblige notre participation. Sous la pression de la peur, du fouet, du regard d'autrui et des bombardements médiatiques, c'est facile de suivre le mouvement général en disant « on ne peut pas faire autrement ». Jésus ne supporte pas ce raisonnement, je vous le dis tout de suite, mais vous le savez. Jésus ne tolère pas ce raisonnement. Parce que nous avons une dignité, et pour cette dignité, pour son rétablissement, il a donné sa vie en mourant sur une croix. Alors on n'a pas le droit de suivre le mouvement torrentiel du monde et de nous jeter jusque dans le gouffre. Nous devons accepter le salut de Jésus, mais donc nager à contre-courant. Les outrages aussi, c'est ce que la passion nous montre. Pas seulement l'élimination de Jésus, pas seulement l'élimination de Dieu hors de ce monde, avec ses commandements de vérité et d'amour, mais une espèce de haine, un déchaînement de cruauté. Et le mal, c'est ça. Le mal, il faut le méditer pour s'en éloigner le plus possible. Le mal, c'est pas seulement s'éloigner de Dieu avec orgueil. Quand on s'éloigne de Dieu, on devient pareil à un démon. C'est ce que Jésus dit à propos justement de Judas, quand il évoque cette figure dans un autre texte auprès de ses disciples. Il leur dit « Parmi vous, il y a un diable ». Et effectivement, lorsque Jésus institue la première communion eucharistique de l'histoire et que Judas communie au corps du Christ, pourtant, c'est pas le Christ qui l'accueille, c'est Satan. À nouveau, on est devant ce grand mystère auquel on ne peut pas échapper. Ou bien nous suivons le bon berger qui lui nous mène jusqu'au salut, jusqu'à l'éternité où il a préparé des demeures pour nous avec amour, lui. Ou bien on suit son adversaire, le prince de ce monde, le diable, et ce ne sera pas neutre, on ne restera pas tel que l'on est. Si l'on s'éloigne de Dieu, si l'on quitte son beau royaume, si l'on fuit ses commandements, on devient pareil à des démons. Et c'est une espèce de décomposition opérée par le mal qui défigure toutes les âmes qui sont ainsi éloignées de Dieu, éloignées du salut. On ne reste pas là tel que l'on est, dans une certaine noblesse de créature, une raison, on choisit, on est libre, on décide de faire ceci ou cela, on écoute encore un peu quand même les autres, parce qu'on en a besoin, essentiellement d'ailleurs, mais on les écoute un peu, etc. En enfer, ça n'existe plus, il n'y a plus aucune dignité qui tienne. Toutes les âmes sont des rampants qui se bousculent les uns les autres, qui s'entrechoquent sans cesse, qui s'interpellent. C'est ce grand mystère que Jésus veut nous éviter en mourant sur une croix. Et il nous montre le mal, cette obstination, tout détruire. C'est comme s'ils avaient voulu mettre Jésus en poudre à travers... Alors la défiguration morale, c'est le procès, la défiguration physique, elle est religieuse, les outrages, se moquer de sa royauté. Et enfin la défiguration proprement physique, celle de la croix qui détruit la personne. Une véritable mise en poudre de Jésus, pour le faire disparaître totalement, le mêler à la poussière de ce monde. Contemplons pour finir l'humilité, la douceur du bon berger. Et puis, son obéissance au Père. Il a tout fait par obéissance au Père et il le dit très fort. Il nous le redit ainsi pour nous dire, nous devons obéir aux commandements que le Christ nous transmet mais qui viennent du Père. Et c'est la condition du salut et le salut peut être parfois abrupt, comme la passion du Christ. N'ayons pas peur de suivre l'agneau immolé. Cet agneau-là nous mène à la lumière, nous mène à la vérité. Il est notre roi. Accalons-le dans la maturité de notre foi.